Bonsoir, le secrétaire général vous fera un résumé des réunions jusqu'à présent et puis il pourra répondre à vos questions. Bonsoir, nous venons d'avoir une réunion de belle facture avec les ministres de défense des pays de l'Alliance. Nous avons pris des décisions supplémentaires pour continuer l'adaptation de l'OTAN pour que l'OTAN puisse faire face aux défis. Un élément essentiel de notre adaptation, c'est une structure de commandement agile et robuste. Cette structure de commandement sous-tend à la fois notre posture de défense et de dissuasion, mais en même temps notre capacité à projeter la stabilité au-delà des frontières de l'OTAN. À l'occasion du sommet de Varsovie l'année dernière, nous avions pris la décision de lancer une évaluation de la structure de commandement de l'OTAN à la lumière de l'environnement sécuritaire qui évolue. Nous voulions veiller à ce que la structure de commandement puisse faire le travail de l'Alliance sur tout le spectre. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un accord pour une ébauche de structure de commandement de l'OTAN qui servira de base pour tout travail ultérieur. Je vais vous indiquer quelques éléments essentiels. Il est question d'un commandement pour l'Atlantique. L'objectif est de veiller à ce que les couloirs maritimes de communication entre l'Europe et l'Amérique du Nord restent sans entrave et sûrs. Il s'agit de quelque chose d'essentiel pour notre alliance transatlantique. Un nouveau commandement pour améliorer le mouvement des forces militaires en Europe et des moyens de renforcer la fonction de logistique à l'échelle de la structure de commandement de l'OTAN. Nos commandements militaires vont élaborer les détails. Le résultat de ce travail sera présenté à l'occasion de la ministérielle de Défense en février prochain. L'adaptation de la structure de commandement de l'OTAN nous permettra de soutenir davantage notre capacité de renforcement des alliés. Mais la mobilité militaire, ce n'est pas qu'une histoire de nouveaux commandements. Il faut également pouvoir déplacer les forces et l'équipement rapidement en utilisant les bons moyens de transport et avec la bonne infrastructure. Depuis l'année 2014, nous avons beaucoup avancé en termes d'amélioration de la législation nationale. Nous avons enlevé bon nombre d'obstacles bureaucratiques au mouvement des forces. Mais nous avons beaucoup de pain sur la planche. Nous devons veiller à ce qu'une législation nationale qui facilite pleinement le passage des frontières soit mise en œuvre. Nous devons avoir suffisamment de capacités de transport à notre disposition. Et cette capacité vient en grande partie du secteur privé. Et nous devons améliorer aussi l'infrastructure. Là, il est question de ponts, du réseau ferroviaire, des routes et des pistes et des ports. L'OTAN est en train de mettre à jour les besoins militaires pour l'infrastructure civile. Bien sûr, la mobilité militaire, ce n'est pas qu'une simple histoire de militaire. Il faut une approche gouvernementale tous azimuts. Et donc, il est essentiel que nos ministres de la Défense portent à l'attention des ministres des Finances, de l'Intérieur et des Transports les besoins militaires. Il est également important que l'OTAN fasse un travail de coordination avec l'Union européenne. Et nous travaillons en effet étroitement et activement avec l'Union européenne sur ce sujet. Par exemple, il y a un partage d'informations sur les normes, les besoins, ainsi que les défis liés à l'infrastructure civile. Je crois que la mobilité militaire pourrait devenir un élément phare de la coopération OTAN-Union européenne. Pour finir, nous avons parlé des différents moyens de renforcer nos cyberdéfenses. Nous devons être tout aussi efficaces dans le domaine cyber que nous le sommes sur Terre, en mer et dans le ciel. Il faut une compréhension en temps réel des menaces auxquelles nous sommes confrontés. Et il faut pouvoir répondre à notre guise quand nous le souhaitons. Aujourd'hui, les ministres sont tombés d'accord pour créer un nouveau centre d'opération cyber qui s'inscrit dans le cadre de notre ébauche de la structure de commandement adaptée de l'OTAN. Ceci nous permettra de renforcer nos défenses cyber et d'aider à intégrer l'élément cyber dans les plans et les opérations de l'OTAN. À tous les niveaux, d'ailleurs. Nous sommes également d'accord pour intégrer des capacités cyber nationales dans les opérations et les missions de l'OTAN. Les pays resteront pleinement à la charge de ces propriétés. Les alliés sont propriétaires, par exemple, des tanks et des avions. L'OTAN est une alliance défensive dont les actions sont soumises à un contrôle politique très strict et nous respectons toujours le droit international. Nous avons pris bon nombre de décisions importantes pour préparer le sommet de l'année prochaine avec les chefs d'État ici à Bruxelles. Nous allons continuer à faire ce qui est nécessaire pour que notre territoire soit hors de danger, ainsi que nos citoyens hors de danger. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Reuters, au centre. Merci beaucoup. J'avais une question sur la question des armes cyber. Est-ce qu'une arme cyber est moins dangereuse qu'une bombe, selon vous? Est-ce que le fait de bombarder un serveur pourrait être plus dangereux que d'enlever une page Internet?
Utiliser les capacités cyber peut constituer une réponse plus proportionnée. Et c'est la raison pour laquelle je me félicite que nous intégrions désormais les cybercapacités nationales dans les missions et opérations de l'OTAN. Nous nous sommes mis d'accord sur ce principe. Pour l'OTAN, l'objectif est toujours de minimiser le recours à la force pour obtenir les meilleurs effets possibles. Et parfois, une réaction dans le domaine cyber peut être la meilleure réaction. Cela dépend des situations. Nous avons pu constater que les alliés utilisent leur cybercapacité contre Daesh en Irak et en Syrie. C'est important dans la lutte contre Daesh. Et je suis convaincu que dans tout conflit militaire, la dimension cyber va devenir un élément essentiel. Et donc, il faut renforcer nos capacités cyber. Nous allons intégrer certaines capacités cyber nationales dans les missions et opérations de l'OTAN, tout comme nous intégrons les capacités conventionnelles, des navires, des chars, des avions. Ces moyens resteront strictement sous contrôle national, mais ils seront intégrés aux missions et opérations de l'OTAN. J'ajouterai également que dans le cadre du renforcement de notre cyberdéfense, nous avons également décidé d'ériger le cyberdomaine en tant que cyber à part entière. Et désormais, donc, les événements cyber pourraient entraîner le déclenchement de l'article 5. Nous intégrons donc les éléments cyber aux missions et opérations de l'Alliance, ce qui constitue un pas supplémentaire dans la direction de l'intégration de la dimension cyber dans les actions de l'OTAN. Le Washington Post.
Michael Birnbaum du Washington Post. Une autre question sur le domaine cyber. Est-ce que vous entrevoyez un rôle pour les effets cyber qui pourrait donc être utilisé dans le cadre d'opérations de défense liées au déploiement de l'EFP, ou alors utilisé en général dans la région des Pays-Baltes et en Pologne. Est-ce que c'est quelque chose qui ferait l'objet d'une annonce publique si jamais on utilisait le cyber?
NATO is a defensive.
L'OTAN est une alliance défensive. Ce que nous faisons est toujours proportionné. C'est toujours conforme au droit international et nous intégrons les effets cyber aux opérations et missions de l'Alliance afin de faire face à un environnement de sécurité évolutif dans lequel la cybermenace s'inscrit désormais. Je ne sais pas ni quand, ni où, ni comment nous utiliserons ces moyens cyber, mais ce que je peux vous dire, c'est que cela se fera conformément au droit international et que ce seront des moyens qui resteront propriété des nations et sur lesquels elles continueront d'exercer le contrôle. Ce sera un moyen de répondre de manière plus proportionnée que lorsque nous sommes obligés de n'utiliser que des moyens conventionnels. Je ne vais pas vous dire ni où, ni quand, ni comment l'Alliance serait susceptible d'utiliser des moyens cyber, mais il est clair que des pays de l'Alliance ont déjà utilisé ces moyens contre Daesh, et cela de manière efficace.
Agence France-Presse. Monsieur le secrétaire général, merci. Le ministre turc de la Défense a envoyé une lettre d'intention avec ses collègues français et italiens. Le projet porte sur l'acquisition de système de missiles air, sol-air, étant donné que lorsque la Turquie a annoncé le projet d'acheter des missiles S-400, cela crée un malaise à l'OTAN. J'aimerais savoir comment vous voyez cette étape avec un contrat réel.
Je me félicite de la collaboration qui s'instaure entre la Turquie, la France et l'Italie sur le développement de systèmes de défense aérienne. Nous saluons toujours les exemples de collaboration entre alliés pour se doter de diverses capacités. Et je pense que ce type de collaboration est également le meilleur moyen de veiller à ce que les alliés disposent des capacités dont ils ont besoin et d'intégrer les nouvelles capacités acquises au système de défense aérienne de l'OTAN. Pour l'OTAN, il est extrêmement important d'assurer l'interopérabilité. Et lorsque trois alliés travaillent ensemble au développement d'un système, c'est un exemple de renforcement de l'interopérabilité et de collaboration entre nations. Donc je m'en félicite.
Gentlemen over there.
Merci. Conseiller Bedine de Medusa. Avez-vous décidé du lieu où se trouverait le centre de coordination pour la cybersécurité? Et si c'est oui, y aura-t-il des forces spécifiques de l'OTAN qui vont travailler là-dessus ou est-ce qu'il y aura juste les capacités des pays membres de l'OTAN?
Le centre fait partie de la structure de commandement existante. Par contre, je ne peux pas vous dire précisément où il sera installé, mais il fait partie de la structure de commandement existante.
James, au premier rang. Bonjour. James Defense. Pour en revenir à cet aspect de la logistique de la réforme de la structure de commandement de l'OTAN, je me demandais si vous pouviez nous donner plus de détails sur ce que ça entraînera. Il y a plusieurs agences de l'OTAN qui travaillent sur cette question. Est-ce que vous parlez simplement de liens plus étroits pour faire face aux problèmes de logistique ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grande envergure qui serait envisagé? Merci.
This is about updating.
Il s'agit de mettre à jour, de moderniser les besoins militaires relatifs aux infrastructures afin de tenir compte du fait que nous sommes désormais plus concentrés sur la nécessité de déplacer des équipements lourds en Europe. Parce que depuis la fin de la guerre froide, nous n'avons pas beaucoup accordé l'attention à cette question. On se demandait plutôt comment transporter, projeter des forces plus légères, opérationnelles, hors zone, par exemple en Afghanistan. Aujourd'hui, il s'agit de transporter des troupes à travers l'Atlantique et à travers l'Europe, et de transporter aussi du matériel beaucoup plus lourd, des chars de bataille, moyens de transport terrestres lourds. Et pour cela, on a besoin d'infrastructures adaptées et surtout différentes. Aujourd'hui, un peu partout en Europe, les ponts, les routes ne sont pas conçus pour supporter ces engins particulièrement lourds que l'on doit pouvoir transporter, déplacer. En tout cas, il n'y en a pas assez de ces voies de communication capables de recevoir ces moyens lourds. Nous devons aussi nous doter de navires, d'avions, de transport lourd. Ces moyens devront nécessairement rester propriété du secteur privé. Il va donc falloir signer des conventions avec ces entreprises privées pour qu'elles puissent mettre ces moyens de transport à disposition le cas échéant. Cela suppose de répondre à un certain nombre de questions juridiques. Ça suppose aussi des normes d'interopérabilité. Nous pouvons formuler les besoins et les normes, mais c'est ensuite au pays de les appliquer lorsqu'ils investissent dans des infrastructures ou lorsqu'ils prennent leur disposition avec des prestataires de services de transport lourds. L'Union européenne est importante. Je me félicite de l'excellente collaboration engagée avec l'Union européenne sur ce dossier. Je pense que c'est aussi une question qui mobilise toute l'attention de l'Union européenne parce que il s'agirait pour l'Union européenne de financer certains de ses investissements en infrastructures. Nous avons la capacité de déplacer nos forces dès aujourd'hui, mais nous souhaitons pouvoir déployer davantage de forces plus rapidement à travers l'Europe, et cela suppose de renforcer, de développer, de moderniser les infrastructures.
Monsieur le secrétaire général, les États-Unis ont parlé des violations du traité FNI aujourd'hui. J'aimerais savoir s'il y a des nouvelles informations sur les violations par les Russes de ce traité et quelle était l'importance du fait que les États-Unis aient soulevé ce sujet à l'occasion d'une ministérielle à l'OTAN. Et j'aimerais savoir, selon vous, s'il est important ou pas de garder en place ce traité FNI.
Le secrétaire à la Défense Mattis a présenté un exposé aux alliés à propos du traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire et il était déterminé que la Russie enfreint ce traité. C'est un message important que le secrétaire Mattis a fait passer dans son exposé. Les alliés ont souligné, comme ils l'avaient déjà fait à Varsovie en 2016, que le traité FNI est un traité très important et qu'il s'agit d'un pilier de la sécurité européenne. Les alliés ont donc souligné qu'ils allaient continuer de se pencher très sérieusement sur la situation dans ce domaine. C'est un élément important de la collaboration transatlantique, mais c'est aussi un élément important pour les pays d'Europe, les alliés européens, parce que le traité FNI a éliminé de l'arsenal nucléaire toute une série d'armes importantes, tous les missiles de portée intermédiaire susceptibles de transporter les armes nucléaires. Je fais partie d'une génération qui a grandi avec le débat sur le déploiement des SS-20 et des missiles de croisière Pershing après la décision des dual track de l'OTAN en 1979. Et nous nous félicitons de l'adoption du traité FNI qui a permis d'éliminer toutes ces armes en Europe. Je pense que le traité FNI est une pierre angulaire, qu'il est important et qu'il doit être pleinement mis en œuvre. Nous allons donc continuer d'appeler la Russie à tenir compte des préoccupations exprimées et à respecter ce traité de manière substantielle et vérifiable parce que c'est un traité qui est important pour nous tous.
Europa Press.
Europa Press. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Je vais revenir sur le dossier cyber. Est-ce que des alliés aujourd'hui ont mis à disposition des capacités cyber offensives pour les missions et opérations de l'OTAN? Et j'aimerais savoir si c'est déjà intégré dans le processus de planification de la défense de l'OTAN. Je veux dire, est-ce que dorénavant, les alliés vont avoir des demandes spécifiques pour des capacités cyber de nature offensive?
Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous nous sommes mis d'accord sur le cadre et les principes d'intégration de capacités cyber dans les missions et opérations de l'OTAN. Il appartiendra ensuite aux pays de déterminer quelles capacités ils sont disposés à intégrer et pour quelles missions et opérations. Je rappelle que chaque pays conserve la maîtrise et la souveraineté sur ses moyens cyber. Mais ce que je peux confirmer, c'est que nous allons disposer de moyens de capacité cyber pour les opérations missions de l'OTAN, que c'est important parce que dans tout conflit militaire potentiel, la dimension cyber et restera très importante. Impossible de dire comment cela sera intégré en pratique au processus de planification de défense de l'OTAN, mais à partir du moment où on veut pouvoir utiliser des moyens cyber lors des missions opérations de l'OTAN, il faut les intégrer à la planification également. Cela illustre que nous nous adaptons à un monde nouveau, changeant, où la dimension cyber est de plus en plus importante, mais cette dimension et ces moyens ne sont pas si radicalement différents que cela des moyens traditionnels, des moyens classiques, où chaque pays conserve la maîtrise et le contrôle sur ses armements et les utilise pour les opérations et missions de l'Alliance. Quand on parle d'un char, d'un avion ou d'une capacité cyber, l'utilisation de ces moyens restera conforme au droit international et s'inscrira dans la posture défensive de l'OTAN.
Al-Hawassim, d'un journal libanais. Monsieur le secrétaire général, vous avez parlé des défis de nature mondiale. Et auparavant, vous avez indiqué qu'il y a un risque accru que Daesh mette l'accent sur des attaques prenant pour cible les pays partenaires ou les pays de l'Alliance. Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivé à cette évaluation? Est-ce que vous avez peur que la lutte contre Daesh devienne une guerre sans fin? On voit ce qui se passe en Afghanistan. Merci beaucoup.
Je pense que nous devons être prêts à ce que la lutte contre Daesh dure une génération, à ce que cela prenne du temps. Nous avons pratiquement réussi à éliminer le califat en termes géographiques, c'est-à-dire du point de vue du territoire que Daesh contrôle en Irak et en Syrie, mais Daesh restera présent d'une manière ou d'une autre et risque donc fort de continuer de constituer une menace pour l'Alliance, pour ses membres et pour de nombreux pays de par le monde. Vous savez que quand les organisations de ce type perdent du terrain sur un front, elles peuvent se décider à attaquer ailleurs. On a pu le constater en Afghanistan, où les talibans et les insurgés n'ont jamais réussi à contrôler des capitales provinciales, mais se sont ensuite tournés vers des attentats terroristes à haute visibilité contre les civils. C'est donc une menace qui ne va pas disparaître comme cela. Il faut être prêt. Et je pense qu'un jour, on vaincra Daesh définitivement. Je pense qu'il est déjà très important d'avoir pu l'évincer des territoires qu'il contrôlait en Irak et en Syrie.
Associated Press, on the other side here.
Associated Press. Bon nombre des sujets abordés par les ministres, que ce soit la mobilité ou le commandement, mentionné la Russie, mais vous ne l'avez pas mentionné. Est-ce que vous pourriez nous donner votre évaluation de la nature de la menace, du risque que représente la Russie en termes de ZAPAD? Vous avez indiqué que le personnel est parti, mais est-ce qu'il y a l'équipement qui est resté sur place? Est-ce que la Russie représente une plus grande menace maintenant qu'avant?
La dissuasion et la défense de l'OTAN et sa posture ne sont pas tournées contre un pays spécifiquement. Nous ne pensons pas qu'il existe de menace imminente contre un quelconque membre de l'Alliance. Nous avons observé le plus près possible l'exercice ZAPAD. Et nous savons que la Russie n'a pas laissé au Bélarus de troupes ni d'équipements lourds, contrairement à ce qui a pu être pensé précédemment. Mais plus généralement, la Russie investit lourdement dans ses moyens militaires, en quantité, en qualité. Ses forces s'exercent, non seulement les forces conventionnelles, mais aussi les forces nucléaires. Et nous savons que la Russie est disposée à utiliser sa force militaire contre ses voisins. Ça a déjà été le cas contre l'Ukraine. Nous devons être prêts à y faire face. Nous y avons déjà répondu, en partie grâce à notre présence avancée rehaussée, qui a déployé des troupes dans les pays voisins de la Russie, en renforçant notre capacité de réaction et notre capacité à déployer et à déplacer des troupes. Nous nous adaptons constamment et c'est un effort qui se poursuit. Question. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. J'ai une question à propos de la lutte contre Daesh. Une annonce a été faite à propos d'une mission en Irak, une mission d'évaluation a eu lieu en février. Quels sont les résultats de cette mission d'évaluation? Est-ce que la mission va se poursuivre, être renforcée? Est-ce que vous allez en rediscuter demain après la réunion formelle de l'OTAN?
À mon avis, on en parlera demain. On en a parlé aujourd'hui. L'OTAN a déjà commencé ses activités de formation en Irak. Une demande nous est parvenue du Premier ministre Abadi. Je l'ai rencontré, nous a envoyé une lettre. Il a demandé à bénéficier du soutien de l'OTAN pour le renforcement des capacités en Irak pour les forces du gouvernement. Nous avons donc commencé déjà ces activités. Ces activités n'ont pas une ampleur conséquente. C'est quelques activités de formation liées à la lutte contre les bombes artisanales. Et on veut aider les Irakiens pour maintenir l'équipement. Il est également question de médecine militaire et on veut aider les Irakiens à mettre sur pied des institutions de défense et de sécurité. Et donc, nous menons à bien certaines activités fort d'une demande émanant du gouvernement de l'Irak. Maintenant, nous sommes en train de demander s'il ne faudrait pas passer à la vitesse supérieure. Alors, ce n'est pas que l'OTAN souhaite avoir une mission de combat ou une opération de combat en Irak, mais nous devons être sûr que l'Irak sera un pays sûr après la défaite de Daesh. Et donc, nous devons avoir des forces irakiennes compétentes, bénéficiant d'une bonne formation, pour pas que nous soyons obligés de revenir avec une opération, une mission de combat en Irak. Il est donc question d'une formation des forces locales. C'est l'une des meilleures armes à notre disposition pour lutter contre les terroristes. Et je crois fermement que l'OTAN peut faire plus en termes de renforcement des capacités et de formation. Car si nos voisins sont plus stables, nous sommes beaucoup plus en sécurité. Et c'est l'une des meilleures armes pour lutter contre le terrorisme. Merci beaucoup. La conférence de presse est terminée.